France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans À la régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit une artiste dont on parle énormément depuis un an et qui est en train de tracer une voie singulière, Miki. Plus tôt dans l'année, elle a attiré l'attention avec son premier EP, Graou, brut et instinctif, porté notamment par le morceau Échec et mat, titre frontal et incisif qui a tourné bien au-delà de son premier cercle. Aujourd'hui, Miki passe à l'étape suivante avec son premier album, Industrie Plante, un titre provocateur, presque ironique, qui interroge les étiquettes et les discours qu'on colle trop vite aux nouveaux talents. Ou en tout cas à certains nouveaux talents. Mais surtout, un projet qui affirme son identité musicale entre pop, rap et J-pop, musique électronique, Miki s'impose comme une artiste hybride insaisissable qui bouscule les genres pour raconter son époque. On va parler de ce disque, de son parcours, de la manière dont elle construit son univers et bien sûr de cinéma. Miki est avec nous pendant une heure à la régulière.
France Inter. À la régulière. Mehdi Maizi.
Bonjour Miki.
Bonjour Mehdi.
Comment ça va ?
Ça va super.
Ouais.
Franchement, en ce moment, il fait très beau.
C'est vrai qu'il fait beau.
C'est beau, hein.
Du coup, tu peux faire du vélo en écoutant de la musique ?
Exactement.
Car je sais que tu fais ça, oui. Tu me l'avais dit.
C'est exactement
c'est
ce que j'ai fait.
C'est un bon moment pour profiter de ce genre de petits plaisirs.
Ah oui, je me souviens, la dernière fois, tu m'avais dit que c'était dangereux de faire ça.
Mais je le fais aussi, je donne pas de leçons. Mais c'est vrai que c'est objectivement dangereux de conduire en écoutant de la musique.
C'est vrai. Bah là, écoute, j'écoutais pas la musique, je t'écoutais toi. Aujourd'hui, en venant à la maison de la radio.
Pour savoir à qui tu avais affaire aujourd'hui, à quel genre d'émission
où
tu mettais les pieds.
Exactement.
Alors justement, puisqu'on parle de ça, l'album c'est l'actualité, en tout cas c'est le premier album, Industrie Plante. J'en parlais rapidement dans l'introduction, évidemment, Industrie Plante c'est souvent quelque chose, c'est une critique en tout cas, une suspicion qu'on va voir parfois sur des artistes qui vont avoir du succès assez rapidement. Toi, c'est une critique qu'on t'a faite, du coup t'as décidé de t'en moquer, en tout cas d'en faire le titre de l'album. Et je trouve que tu l'adresses dès le premier morceau qui s'appelle Yes, en fait, où tu parles dès le début des critiques, de la méchanceté qu'on peut subir. Dans quelle mesure ça a été violent pour toi? Parce que quand on s'était vu dans un autre podcast, j'avais l'impression que tu avais l'air de l'avoir assez bien vécu. Mais là, en fait, on comprend aussi que, bien sûr, ça t'a blessé, que ça n'a pas été une chose facile à manœuvrer.
Mmh. Bah, le son, en vrai, il commence au début en parlant du fait que je vomis tous les mots qu'on dit de moi sur Internet. Ils s'impriment sur ma peau, du coup, j'y crois, ça me fait mal à la tête.
Ouais.
Et en fait, à la fin de la chanson, je dis quand même... je crois que je dois y aller, je répète jusqu'à 22h. Rendez-vous dans 2 ans et c'est toi qui chanteras tout par cœur.
Exactement.
Et en fait, le reste de l'album, il parle pas de ça, vraiment.
C'est vrai.
Il y a genre des petits commentaires à gauche à droite, comme dans BNF par exemple. Mais c'était un moment et j'ai pas envie d'en faire mon identité non plus. Et le titre de l'album, ça parle pas forcément. Enfin, tous les titres de l'album, ça parle pas forcément de ça. Et donc, je vais pas en faire un sujet plus que juste un clin d'œil et de l'ironie par rapport à un truc qui s'est passé et qui est un truc quand même assez. Marquant, je trouve, aussi dans l'histoire de l'industrie musicale française, parce qu'en fait, je pense qu'avant ça, c'était pas un mot qu'on utilisait autant.
Ouais.
Et je pense que là, ces dernières années, c'est devenu hyper, hyper commun. Et je pense que même les gens qui l'utilisaient, ils savaient pas de quoi ils parlaient non plus, quoi.
Complètement.
Donc, je trouve ça marrant aussi de marquer un moment dans l'histoire.
Oui, c'est presque un moment, enfin, un terme pop culture qui est de plus en plus présent et tu marques un peu l'époque aussi en l'utilisant, en faisant le titre de l'album. Quoi.
Bah, j'espère que ça pourra au moins interroger les gens sur le sujet.
Alors beaucoup de gens, en tout cas je pense, t'ont découvert avec un morceau qui est encore présent sur l'album, c'est le morceau Échec et mat.
Genre qu'avec des geeks ou des dilos, car je kiffe les mecs qui sont pas que des talons. Mais j'avoue, j'ai vu la limite, le dernier m'a poussé à bout de mes anti-vomitis. Échec et mat. À deux doigts d'un échec et mat. Moi je suis échec et mat. J'aurais vraiment tout fait.
C'est intéressant parce que sur l'album, je trouve que tu explores plusieurs genres musicaux. Et quand on a un morceau comme ça qui est quand même dans une esthétique très particulière, est-ce que c'est pas frustrant parfois d'être... de pouvoir être résumé à ce morceau-là, parce qu'en fait t'es beaucoup plus de choses que ça. Je pense qu'il y a des gens qui disent: ah, Miki, Elle rappe, c'est une rappeuse. Alors qu'il y a des morceaux qui sont vraiment radicalement différents de ça. Est-ce que parfois c'est compliqué quand on aime toucher à plein de choses différentes?
Bah, en fait, je pense que ce qui a été dur pour moi, même au début, en fait, la raison pourquoi on m'a traité d'industrie plante aussi, c'était que c'était les premiers morceaux qui sont que j'ai sortis du projet, c'était ça et Je t'aime encore, mais Je t'aime encore qui est passé un petit peu plus sous la trappe parce qu'on avait rien à me reprocher par rapport à ce morceau parce qu'en fait, il ressemblait pas à un morceau de rap. Enfin, c'était vraiment un truc un peu ovni, enfin pour moi, et ça me saoule que d'un coup en fait la première prise de parole que je fais, en fait on me démonte alors que c'est juste 1% de qui je suis et 1% de ce que j'écoute, et donc c'est pour ça en fait je me suis pas trop prononcée parce que je savais très bien moi ce que je valais et ce que j'étais au fond de moi. Donc j'ai jamais vraiment trop répondu aux commentaires par rapport à ça parce que je savais très bien qu'après j'allais sortir des morceaux comme Roger Rabbit, comme Yes, comme Hajima qui ont rien à voir avec Échec et Mat, et en fait c'est juste ça fait juste partie d'une palette de ce que j'aime quoi.
Cet album là tu l'as fait en 3 mois.
Ouais.
Est-ce que ça a été une source de motivation, cette urgence, une pression? Comment t'as vécu cette période d'excitation pour boucler l'album?
Alors c'était génial et en même temps c'était aussi très très fatigant. Je pense que je sortais d'une période aussi assez éprouvante par rapport à Graou, et en fait même si je parle pas autant de ça directement de la violence que j'ai subie au début par rapport à Échec et Mat et tout, en fait cette espèce de tourbillon, de fatigue, de choses que je lisais sur moi, il s'est transformé en une espèce de je suis devenue un espèce de robot où genre j'étais épuisée et j'avais plus la force en fait. J'avais plus la force, donc il y a beaucoup de morceaux dedans qui en fait exprime cette je sais pas comment dire ça, engourdissement en anglais, on dit numbness, mais cette espèce d'engourdissement en mode genre il y a tout qui m'arrive comme ça, je me tape là et en fait je ressens rien, et en même temps j'étais pas, il y a une espèce de tristesse, en même temps la manière dont je voulais exprimer cette tristesse, elle se fait d'une manière très douce comme dans BNF Hanawan, et aussi j'écoutais aussi beaucoup Blady, Younglin, Rooster aussi à ce moment-là, donc il y a un peu de cette espèce de truc laid back qui est assez présent dans beaucoup de morceaux, même Polly Pocket et tout.
Ouais.
Donc je parlais de sujets en fait qui me parlaient, qui me violentent, mais j'avais pas trop l'énergie de le crier haut et fort, et je pense que ça a donné des morceaux qui sont beaucoup plus laid back quoi.
Sur l'écriture, c'est intéressant parce que Il y a une écriture qui peut être parfois, je vais pas dire trash, mais en tout cas genre sans filtre. C'est-à-dire que des fois tu peux faire des rimes juste pour blaguer, tu peux être parfois vulgaire, et puis de moment effectivement tu peux être très douce. Et j'ai découvert aussi en préparant l'émission que après certains morceaux, notamment Motherload, il y a une forme peut-être d'autocensure vis-à-vis de tes proches, des choses que tu pouvais dire. Est-ce que sur l'album t'as mis des filtres du coup par rapport à ça parce que tu voulais pas blesser les gens, ou est-ce qu'au contraire il y en a pas du tout?
Je pense que là, j'ai voulu mettre un petit peu plus de rideau sur ce que je ressentais, parce que j'étais vraiment heurtée par la réaction de ma famille par rapport à ce que j'avais sorti. Ils s'y attendaient pas du tout, et genre j'aurais pas vraiment expliqué. Enfin, je pensais qu'ils avaient entendu en concert et donc ils avaient capté. En plus, mes parents, ils viennent pas beaucoup à mes concerts déjà parce qu'ils sont loin, mais je sais pas, il y a toujours une partie de moi qui me dit ils ont dû l'écouter avant et comprendre, et voilà, ça sera pas un sujet. Et en fait, c'était un gros sujet. Et, et je me suis dit, ok, là maintenant, dans l'état où je suis, j'ai pas envie de pour l'instant, de me replonger dans un
conflit risque familial.
Ouais.
Ça a créé des conflits, sans rentrer dans les détails, ou non, c'était plus des discussions que ça a créé et des discussions un peu compliquées?
Non, en fait, ça a résolu beaucoup de trucs.
Ah, ok.
C'était assez.
Comme quoi,
beau.
Il faut parler.
Ah ouais, il faut parler, mais je sais pas si j'aurais pu dire toutes ces choses-là si ça avait pas été dans une chanson. Motherload, c'était vraiment la lettre que j'ai toujours voulu écrire à mon père, mais que j'ai jamais eu le courage de faire, quoi. Donc. Et lui, c'était une manière pour lui de... Le fait que ce soit public, ben, il était obligé de m'écouter.
Il pouvait pas éluder le sujet.
Non.
Ouais.
Mais il a ressenti une grande honte. Et j'ai eu honte de sa honte. Surtout, c'est mon père. Et donc, voilà, j'ai... Mais voilà, du coup on a parlé et maintenant notre relation elle est beaucoup plus forte maintenant qu'avant, je pense, grâce à ce son.
Grâce à ce morceau.
Ouais.
Je pense qu'on écoute un autre morceau, un morceau de toi évidemment, c'est le morceau Particule, présent sur l'album. Si tu devais le pitcher, qu'est-ce que tu dirais de ce morceau, en 10 secondes comme ça?
Ça parle de l'impossibilité de pouvoir faire partie de la vie de quelqu'un d'autre parce qu'elle est trop concentrée à regarder ses pieds.
C'est le meilleur pitch au monde possible. On écoute Particule de Mickey.
Quelle heure il est, elle est? Est-ce que t'es au tel avec elle? On peut sans qu'elle se réveille, qu'elle te raccère. Quelle heure il est dans ta tête? Tu prends la poudre d'escampette, tu t'en fiches qui se jette, qui se remplace. Et si mon tel vibre, c'est que Vinted ou ma grand-mère, et que toi qui peux te taire dans ces moments, il me suffirait d'un mot. Savoir qu'est-ce qui fait sa place auprès de toi. Je suis qu'une particule qui orbite autour de toi, qui orbite autour de soi, qui orbite autour de. Je suis qu'une particule, quand je m'approche je me brûle. Si je m'éloigne je te perds, à quoi ça sert? Je suis qu'une particule. Avec ma coupe de blaireau, alors que c'était peut-être la terre, des terres, des terres, des terres, des terres, des terres. Toi t'étais tellement beau, t'es beau quand tu rougis quand tu parles d'elle. Mais dis t'inquiète, c'est pas la peine, c'est quand même pas une top modèle. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, puisque tu cèdes.
C'était le morceau Particule de notre invité du soir, Mickey.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Et Mickey, je ne l'ai même pas dit car on allait directement dans l'album parce que j'avais plein de questions à te poser. Mais si on revient sur ton parcours, les gens ne le savent peut-être pas, mais tu as fait des études de cinéma.
Oui, exactement.
Tu as une culture ciné.
Oui.
Donc je te propose un petit quiz cinéma, mais... aucun piège, au contraire, à toi peut-être de nous faire découvrir, de nous dire les films que tu aimes particulièrement. Si tu devais nous donner ton film d'enfance, ton film réconfort.
Mon film d'enfance réconfort.
Ouais.
Je pense que ce serait Fantasia 2000.
Ah ouais, ok. 2000. C'est une suite ou je ne l'ai pas vu?
Je ne sais, je pense qu'il y a peut-être eu un autre Fantasia avant, mais okay. C'est la seule que je connaissais.
Le titre, c'est Fantasia 2000.
Fantasia 2000, okay. Avec une bande originale fully de Walt Disney.
Ouais.
Et dessin. En fait, c'est la musique classique qui accompagne de l'animation. Échec commercial total. Mais ouais, c'est incroyable.
Tu dis échec commercial total. Je dérive un peu de ce quiz-là, mais j'ai le sentiment qu'en fait, tu sais, toi, à un moment, quand t'es arrivé, on a beaucoup parlé, oui, figure de la nouvelle pop, etc. Et je te le souhaite, c'est ce que tu as envie de faire. Mais moi, j'ai le sentiment que ta proposition, elle est beaucoup plus spé que ça. Je ne la vois pas comme une proposition pop du tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de morceaux qui peuvent marcher, mais j'ai le sentiment que tu es quand même un peu plus attiré par les propositions un peu niches ou audacieuses ou radicales, même dans tes goûts cinématographiques. Je parle pas de Fantasia 2000, mais je sais que t'es fan de certains cinéastes qui sont un peu assez cryptiques. J'ai l'impression que t'es plus une amoureuse des niches que de la pop. Peut-être que je me trompe, mais c'est le sentiment que j'ai.
Alors oui, mais aujourd'hui la pop s'est fait de niche. Ça n'existerait pas sans la niche, la pop. C'est l'hybridation justement de plein de genres différents. Et surtout aujourd'hui, on écoute de la pop, enfin, on sait que c'est des références qui viennent de tous les horizons. Donc je pense que c'est le véhicule ordinaire.
Mais est-ce qu'il y a des choses que tout le monde aime que tu aimes aussi?
Oui, bah Frank Ocean, tout le monde aime, j'aime aussi.
C'est vrai, ok, ça va, c'est réponse parfaite. Mm-hmm. Un film caché, une pépite que les gens ne connaissent pas trop et que toi que tu adores.
L'Imaginarium de Dr Parnassus.
Ah oui.
De Terry Gilliam.
Terry Gilliam, absolument.
Ouais.
Ok.
Qui était d'ailleurs le dernier film de... comment il s'appelle l'acteur qui faisait The Joker
Heath Ledger.
Heath Ledger, ouais. Il est mort pendant le tournage.
Tout à fait, et c'est pour ça qu'après il y a d'autres acteurs qui ont
fait remplacer.
Exactement, ouais. Johnny Depp, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, ouais, plusieurs acteurs qui ont repris le rôle. Alors, le réalisateur ou la réalisatrice de rêve pour réaliser ton biopic?
Mon biopic. C'est mon biopic, c'est quoi? C'est
ta vie.
C'est ma vie.
Le film sur ta vie. Ouais, complètement.
J'aimerais. Ah, ce serait Lee Chang-dong.
Alors, est-ce que tu peux nous présenter? Je ne connais pas.
Donc, c'est un réalisateur coréen,
ouais,
qui a fait Peppermint Candy, Oasis, Burning aussi, peut-être qui est un peu plus connu. Okay. Et qui, comme plein d'autres cinéastes coréens, ont vraiment un regard extrêmement violent, mais qui dédramatise la violence beaucoup. Et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et voilà, une sensibilité dans la mise en scène. Je ne sais pas, c'est des génies.
Est-ce qu'il y a un film un peu miroir, un film où tu t'es identifié particulièrement soit à l'histoire, soit au personnage?
Peut-être, c'est un peu éloigné, mais je pense que je dirais Under the Silver Lake,
okay,
avec Andrew Garfield.
Ouais.
C'est un film de David Robert Mitchell qui est sorti en 2018 et c'est un de mes films préférés. Et juste, je m'identifie beaucoup au personnage du film qui est un petit peu, qui a envie de trouver des signes, une prophétie dans un monde ordinaire et qui aime bien se retrouver dans des situations un peu absurdes et qui fait pas en fait ce qu'il est censé faire. Et il trouve toujours une manière de procrastiner en faisant des trucs qui ramènent à une forme de magie, quoi. Et lui, il est complètement à côté de la plaque.
Ouais.
Mais voilà, il y va et je sais pas, j'aime bien.
Est-ce que t'as l'impression d'être à côté de la plaque, toi?
Pas mal, ouais.
Ah ouais?
Ouais, quand même, sur plein de trucs, mais c'est ma manière aussi de me protéger. Si j'étais. Même les gens qui sont trop terre à terre et tout, ça me stresse. Ça me stresse.
En tout cas, on est avec Mickey pour parler de l'album Industrie Plante. Je parlais un petit peu de ta proposition qui peut être assez effectivement spé, en tout cas risqué même parfois. Il y a des sons très saturés, parfois des morceaux un peu abrasifs. Et tu travailles sur, notamment, je sais, avec des compositeurs comme Can Blaster, comme Tristan Salvati. Et Lucas V. Comment vous avez composé? Justement, est-ce que les trois étaient ensemble ou comment tu composes la musique et avec vraiment des parties pris parfois qui sont audacieux?
Je pense que ça s'entend quand même, les morceaux qui sont faits avec certains collaborateurs. Je travaille uniquement avec Tristan en duo. Et je travaille en trio avec Cédric et Lucas. Avec Tristan, les morceaux de cet album, ils se sont faits hyper rapidement. Enfin, en une après-midi, c'était plié, quoi. Et c'était souvent des moments où on s'y attendait pas. En fait, avec Tristan, on va se buter sur un truc qui peut nous faire chier. Et après, on prend une pause où il prend la guitare et il fait un petit truc et chante par-dessus. Et voilà, en deux heures, on écrit. L'écriture, elle s'est faite direct. J'y retouche presque pas. C'est souvent, il y a des papiers qui traînent. Je prends un stylo. Je pense qu'il a pas mal de morceaux. Ils sont écrits dans des tiroirs de son bureau à la main avec les ratures et tout. Et je les ai même pas dans mon iMac, dans mon téléphone, quoi. Je les ai vraiment lus des papiers de son studio. Avec Cédric et Lucas, c'est un peu différent. Je pense que déjà on a fait une résidence tous les trois et c'était quand même, il y a des morceaux qui étaient basés de propositions de Lucas directement, moi de mes démos à moi, Des trucs aussi qui venaient de Cédric. Par exemple, un morceau comme Switch, je pense que je ne l'aurais pas fait par moi-même s'il n'y avait pas eu Lucas.
Mmh. Donc, Lucas, c'est Lucas V qui a beaucoup travaillé notamment avec D6, par exemple. C'est ce que j'ai en tête sur un album comme L'Amour. Mmh. Et Cédric, c'est Canne Blaster, évidemment, qui était dans Club Cheval.
Exactement. Et Lucas, moi la musique pour laquelle je l'admire et je respecte, c'est ce qu'il a fait surtout avec Luther avec Runa.
Tout à fait. Qui sont signés sur le label de D6, Sublime.
Absolument. Qui n'est plus.
Qui n'est plus exactement, mais en tout cas, historiquement, c'est comme ça que beaucoup de gens les ont découverts. Tout à fait.
C'est ça. J'aime tout ce qu'il fait, mais c'était plus ce côté déconstruit, il est un peu électronique, un peu
saturé,
agressif. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce qu'il fait. Cédric, lui, c'est vraiment sa notion des mélodies, enfin non, des harmonies beaucoup. On a vraiment la même sensibilité par rapport à ça et un peu les mêmes refs aussi de culture jap.
Tout à fait.
Et on se retrouve là-dedans.
Alors, il y a plusieurs morceaux sur l'album, notamment des morceaux qui étaient déjà sortis, comme par exemple Roger Rabbit. Ce morceau me semble assez être peut-être une bonne image de ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est qu'il peut y avoir de la colère ou des choses dures, mais chanter avec douceur. Parce que ce morceau-là, c'est un morceau qui traite d'un sujet extrêmement douloureux, qui est la pédophilie. Mmh. Et c'est un morceau qui, quand on l'écoute comme ça, n'est pas un morceau spécialement dur à la première écoute, ou larmoyant, ou même accusateur. Est-ce que ça a été compliqué d'écrire un morceau pareil qui, tu l'as souvent dit, n'est pas un morceau autobiographique mais qui parle d'une réalité qui évidemment existe.
C'était un des morceaux les plus faciles à écrire.
Okay.
Je veux dire en termes d'exécution. C'est des accords qui viennent de Cédric. C'est les mêmes morceaux que My Baby Just Cares For Me de Nina Simone. Très gourmand, très rassurant. Il les a fait passer dans ses modulaires, donc ça encore, c'était voilà. On avait juste ça au début. Lucas, il s'est mis à la drum. On était là, et je pense qu'ils avaient hâte de voir ce que j'allais faire dessus. Ils étaient en mode, on va faire un truc hyper, hyper cosy, beau et tout machin. Et j'étais en mode, c'est trop beau pour être vrai. Et genre, j'écoutais comme ça, et j'étais en mode, j'avais envie de faire Et ça commençait un truc un peu comme ça, genre de souffrance et en même temps d'essayer d'essoufflement et de se sortir d'une situation en mode genre et il y avait juste une phrase qui traînait dans mes notes, c'était Bugs Bunny sur mon palier et après tout d'un coup je me suis dit ok en fait c'est trop beau pour être vrai, il faut que ce son il parle de quelque chose de très sombre, de pervers, parce que souvent c'est ce que ça me procure en fait, les choses qui sont un peu trop belles pour être vraies, les dessins animés, les cartoons. Il y a certaines imageries où on sent que les créateurs derrière, en fait, ils voulaient faire passer un autre message. Et en fait, moi, j'adore ce truc de faire passer un autre message à travers des signes. Bah, ça ramène au truc d'Under the Silver Lake là avec Andrew Garfield et tout. Enfin, ce film il est trop bien, faut le regarder. J'adore les messages secrets, les Kinder Surprise.
Et le fait d'aborder un sujet aussi dur, est-ce que c'est une question que tu t'es posée? Est-ce que je peux en parler? En plus, on parlait de cette autocensure par rapport à la famille. La famille peut même encore imaginer que c'est quelque chose que t'as vécu, etc. Est-ce que tu t'es posé la question de est-ce que je dois aller sur un terrain comme celui-ci?
Bah, c'est drôle parce que quand j'écris, j'ai pas du tout. Je me rends pas compte que c'est aussi dur en fait. C'est quand je vois l'écoute des autres. Donc par exemple, je dis ok, laissez-moi 2 heures. Je suis allée dans la chambre, j'ai écrit, je suis revenue. J'ai dit ok, on va faire une prise. C'était une prise. J'ai dit à Lucas genre tu me suis à la main, tu fais les autotunes sur les refrains et tu les coupes après et on va faire une prise et basta. Et je l'ai faite. même j'ai à la fin les et je me suis dit ok, je sais pas trop comment ils vont réagir, mais pour moi ça me paraissait d'être la chose la plus juste.
Okay.
Et j'ai regardé la tête des garçons et Cédric il était là, il était mais mortifié. Il était mortifié, il dit mais t'as gâché la chanson, mais qu'est-ce que t'as fait, mais tu peux pas parler de ça, qu'est-ce qu'ils vont dire, ton label et tout machin. Et Lucas était en mode genre moi j'aime bien. Et donc c'est en voyant la réaction des autres en fait qu'on se rend compte qu'on dit des trucs de ouf. Enfin moi c'est justement en faisant des interviews avec d'autres gens avec Graou et tout machin que je me suis rendu compte que les gens ils trouvaient ça hors du commun. Ouais. Mais enfin hors de l'ordinaire, je suis pas hors du commun en mode extraordinaire.
Oui,
mode
oui.
C'est pas ce qu'on entend d'habitude, mais pour moi c'est exactement ce qui se passe dans ma tête. Et pour moi, puisque j'ai l'habitude de penser comme je pense, ben, c'est normal quoi.
Il y a un morceau que t'as cité qui est probablement mon morceau préféré de l'album, c'est le morceau Hajima, j'espère que je prononce ça bien.
Hajima.
Qui veut dire, si je ne dis pas de bêtises, ne fais pas ça, mm-hmm. en coréen, où tu parles aussi parfois de tes mauvaises actions, et même de la culpabilité que tu peux avoir. Est-ce que tu as encore cette culpabilité-là sur des erreurs que tu as pu faire, ou tiens, tu parles, de toute façon il faut écouter le morceau, est-ce que tu as encore cette culpabilité-là sur des choses que tu regrettes, au moment où tu dis que tu penses à ta mère ou à ton père, je ne sais plus, dans un acte où tu n'es pas censé penser à mm-hmm. cette personne-là. C'est une forme de culpabilité, ça.
Oui, je pense qu'il y a encore un... Au fond de moi, il y aura toujours la petite fille qui veut être la bonne fille pour sa maman. Parce que j'ai une maman qui s'est sacrifiée entièrement pour nous. Et en fait, ça fait aussi partie de la culture coréenne. C'est... Quand je vois les mamans françaises, quand j'étais petite, quand je les voyais, j'ai trouvé très détachées, beaucoup plus détachées de leurs enfants. Elles font leur vie, leurs enfants ils font leur vie, et basta quoi. Et ce qui est aussi une forme de liberté incroyable. Mmh. Mais j'ai grandi moi avec une maman qui a tout donné et qui ressemble un peu aux mamans italiennes ou juives. On dit toujours qu'il y a un truc un peu similaire. Et en fait, ce truc-là, il est tellement ancré en moi que, à partir du moment où je fais une action dont je sais que ma mère, elle serait pas fière, même si aujourd'hui, voilà, j'ai 26 ans, je me suis quand même émancipée de ça, j'aurai toujours l'image de ma mère qui me dira genre, Mickey, ce truc-là.
Bon, je propose qu'on écoute maintenant une figure incontournable de la pop moderne, Charlie XCX. Toujours à la frontière entre mainstream et expérimental, elle s'amuse à repousser les codes de la pop électronique. Et là, on va retourner en 2022 avec le morceau Every Rule, issu de son album Crash. Ça date de 2022, ça s'appelle Every Rule et c'est signé Charlie XCX.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Ce soir, nous sommes avec Mickey qui sort donc l'album Industrie Plante et je te propose qu'on s'arrête un peu sur cette notion d'Industrie Plante parce que derrière cette étiquette se cache un peu une idée simple, un ou une artiste qui n'aurait pas percé naturellement mais qui aurait été fabriquée ou poussée artificiellement par l'industrie. Et c'est vrai qu'en France, t'as raison, tu l'as dit, c'est un terme qui est assez récent dans le débat. Aux États-Unis, un peu moins, des gens utilisaient ça et je te propose d'illustrer ça avec trois cas qui ont été confrontés à cette accusation. On peut commencer en 2015 avec White Iverson, morceau de Post Malone qui explose sur SoundCloud. Du jour au lendemain, Post Malone passe de parfait inconnu à phénomène du rap américain. Succès fulgurant, look atypique, un single qui sonne déjà comme un tube taillé pour la radio.
Watch out, oh watch out, oh watch out, yeah. I smash out, I smash out, I smash out, yeah. I'm spending all my fucking pay.
Résultat, beaucoup se méfient, on l'accuse d'être une création des maisons disques, un artiste parachuté dans le rap sans légitimité. Certains parlent même d'appropriation culturelle, une accusation qui reviendra de manière encore plus forte quand Post Malone délaissera le rap de façon plus ou moins définitive pour se consacrer au rock. De son côté, lui a rappelé qu'il a galéré des années avant, qu'il a d'abord été guitariste, fan de métal et de folk. Est-ce qu'il était un vrai passionné de rap? On peut se poser la question, mais toujours est-il qu'avec le morceau Sunflower, il détient le record du morceau le plus écouté de l'histoire du streaming aux États-Unis. En 2013, une adolescente néo-zélandaise débarque avec Royals. Succès planétaire, Grammy Award et l'image d'une artiste qui, à 16 ans, apparaît déjà totalement en place avec un univers visuel et sonore hyper maîtrisé. Donc il s'agit de l'artiste Lorde, et à ce moment, beaucoup se demandent, est-ce possible qu'une artiste aussi jeune ait un projet aussi construit sans l'appui massif d'une industrie? Les critiques donc vont parler d'Industrie Plante, certains pensent que tout a été orchestré par son label Universal, mais Lorde de son côté revendique un travail en duo avec son producteur Joel Little, et surtout un regard lucide sur le monde de la pop. 10 ans plus tard, son statut d'autrice-compositrice respectée a dissipé une large partie des doutes. Et puis, autre ado prodige, autre cas emblématique, en 2015, Billie Eilish met en ligne Ocean Eyes, écrit par son frère Finneas. Le titre explose et très vite, Billie devient le visage d'une nouvelle génération, sombre, fragile et implacablement pop. Là encore, le succès est jugé trop rapide, trop parfait pour être vrai. On l'accuse d'être le produit d'un plan marketing d'un label qui aurait façonné son image de star anti-pop star. Billie Eilish a toujours répondu à ces accusations en insistant sur la dimension familiale et artisanale de ses débuts. Et avec le temps, elle a prouvé que son univers lui appartient bel et bien, remportant des Grammy, 2 Oscars et devenant une icône culturelle et générationnelle. Ça, c'est No Time to Die qui était la BO du dernier James Bond. D'ailleurs, c'est la plus jeune personne à avoir remporté 2 Oscars. Billie Eilish, elle a remporté 2 Oscars pour la meilleure bande originale d'un film. Voilà, même Billie Eilish a été accusée d'industrie plante. Est-ce que ça veut pas dire que finalement c'est un peu des bêtises tout ça?
J'espère.
Non, mais c'est vrai, on se rend compte finalement que dès que quelqu'un perd sans qu'on le connaisse, c'est quelque chose qui est assez vieux comme accusation et qui ne date pas d'hier. Donc c'est assez fou d'ailleurs que. Mais. Il y a aussi beaucoup d'interviews où toi tu t'es exprimé là-dessus en disant que c'était aussi sûrement des reproches qu'on t'avait fait parce que t'étais une jeune femme et qu'on pouvait pas imaginer peut-être qu'une jeune femme puisse parfois écrire sa musique toute seule. C'est aussi ça qu'il y a derrière ces accusations que tu, que tu pointais du doigt.
Oui, oui, donc ouais, je pense qu'il y a une partie. C'est pas que la misogynie, mais je pense que ça joue énormément.
Ouais.
Et je pense que les personnes qui ont été accusées d'industrie plante en France étaient majoritairement des femmes aussi.
Ouais, clairement. Donc ça raconte quelque chose.
Oui.
Mickey est avec nous ce soir. Alors sur l'album, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, notamment aussi, tu disais que tu avais 26 ans, que maintenant, forcément, la culpabilité, quand tu fais des choses que ta mère n'aimerait pas, elle diminue sûrement. Et on sent aussi que, évidemment, c'est normal, tu deviens une femme, tu parles de beaucoup de choses, de ton rapport à la séduction, au travail, à plein de choses, mais aussi toute cette partie, tu sais, sur la relation aujourd'hui que tu peux avoir, même encore aujourd'hui, avec tes parents, qui sont encore présents. On disait que tu ne venais pas régulièrement à tes concerts. Est-ce que quand même ils comprennent un peu ce que tu fais? Est-ce qu'ils s'intéressent à ce que tu fais aujourd'hui?
Oui, ils s'intéressent, bien sûr. Ils sont fiers de moi. Ils sont très fiers de moi. Après, j'aime bien le fait qu'ils soient aussi un peu à côté de la plaque de tout. Et je pense que le moment où je pense qu'ils se sont vraiment rendus compte que j'en faisais mon métier et que c'était un vrai truc, c'était quand il y a le premier article Libération qui est sorti il y a un an. Mais avant, mon père, c'était toujours... Bon, et qu'est-ce que tu fais là, là tu peux gagner ta vie, comment tu fais pour gagner ta vie? Tu sais, il me posait que des questions, moi, genre mais comment tu vas faire et tout.
C'est très
abstrait. Tu devrais faire des duos, il me dit tout ça. Tu devrais faire des duos avec les garçons parce que c'est beau, tu vois, la voix de deux voix ensemble. Tu sais, il me posait toujours les mêmes questions, il me redisait la même chose comme si c'était un peu un truc générique, comme genre bon. Elle, je sais pas ce qu'elle fait. Je vais lui dire moi les deux trucs que je trouve bien dans la musique.
Est-ce que tes parents, tu les qualifierais de mélomanes ou pas vraiment?
Alors ma mère est très mélomane, extrêmement mélomane de musique classique. Donc on a vraiment été baignés là-dedans depuis petit. Et mon père, oui, alors il écoute moins. C'est pas quelqu'un qui va écouter de la musique maintenant aujourd'hui. Enfin, ma mère, il y a la radio, elle est tout le temps allumée, elle a toujours besoin d'écouter. Mais mon papa, lui, les influences que j'ai lui, c'était le rock, les Beatles, Dire Straits, Pink Floyd, ouais. Et la musique aussi sud-américaine, beaucoup. Okay. Vinicius Moraes et João Gilberto, tout ça. Mais voilà, en dehors de ça, il écoute. Je vois pas écouter grand chose d'autre.
Okay. Tu parles aussi, du coup, dans tout cet aspect aussi de devenir une femme. Tu racontes aussi que tu as longtemps été un peu un garçon manqué. Alors, je ne sais pas si tu l'étais physiquement ou davantage dans toi, dans la manière dont tu t'es construite, mais c'est aussi quelque chose qui a été présent et constitutif aussi de ta jeunesse, qui est moins le cas aujourd'hui.
Je pense que le truc garçon manqué, c'était vraiment dans ma tête, beaucoup.
Ouais.
Parce que... Quand j'étais ado, j'étais quand même assez coquette. Je me mettais des robes, du maquillage, tout ça. J'aimais bien être dans un perso aussi. C'est agréable aussi de me sentir très féminine. Mais au fond de moi, j'ai toujours été celle qui était un peu plus casse-cou, sportive,
ouais.
Qui aimait aussi genre... Ouais, me salir. De manière générale.
Mais parce que sur l'album, il y a presque un moment où j'ai le sentiment, peut-être que je l'ai mal compris, presque comme si tu culpabilisais, là encore, d'être une jeune femme qui peut plaire, sexy. Il y a quelque chose comme ça où c'est dans les rimes que tu emploies, une petite fille dans un corps de garce, si je dis pas de bêtises, un bikini sur un garçon manqué, comme si finalement c'est quelque chose qui te, non pas te dérangeait, mais comme si tu savais pas que c'était nouveau finalement, que tu commençais à contrôler presque ce pouvoir-là de la séduction. C'est un peu comme ça que je l'ai compris, et que c'est pas forcément présent dans ta vie, avant.
Je sais pas trop. Je pense qu'avant, j'étais un peu obsédée avec mon apparence, quand j'étais au lycée. Je pense passer 45 minutes à me maquiller.
Oui, donc t'avais quand même, c'était présent, ouais.
Non, j'avais un peu... Mais je pense que c'est un truc général de filles au lycée aussi... Et aussi le début des réseaux sociaux, Facebook, les photos de profil et tout, machin. Ça joue énormément.
La pépé.
Voilà, genre le selfie que tu fais un petit peu de trois quarts comme ça, avec la musique d'Arctic Monkeys que tu mets en caption. il y avait ce truc-là. Et ensuite, quand je suis arrivée à l'université, j'avais un espèce de... J'avais l'impression que ce truc vaniteux, ça pouvait être un ennemi, en fait, pour se faire des copines. Et quand je suis arrivée à l'université, j'avais l'impression, en tout cas les filles, il y avait un groupe de filles avec qui j'avais envie d'être pote, et qui, je me sentais un peu rejetée par elles, et je me suis dit ok, ben je vais essayer d'être la moins menaçante possible, et j'ai fait un truc qui est vraiment bête quoi, mais j'ai commencé à à m'amocher. Exprès, et genre je voulais aussi prendre du poids, pas pour dire que prendre du poids c'est s'amocher, mais dans mon cas, genre je voulais leur dire genre ah, je fais pas trop attention à moi, vous inquiétez pas, et je faisais tout le temps des blagues, j'étais tout le temps genre le clown, et je draguais plus, j'étais jamais dans la séduction avec les garçons, j'avais un truc où je voulais juste genre être acceptée par les filles.
Par
quoi.
Ce groupe de filles.
Ouais.
Donc c'est plus les filles que les garçons qui ont finalement eu un impact sur tes choix, en tout cas, d'apparence ou de comment t'allais t'habiller, c'est plus une question d'intégration dans un groupe féminin qu'une question de séduction par rapport à l'autre sexe, en fait.
Ah oui, ouais. Oui.
C'est intéressant.
Ouais, complètement.
Ouais. Les garçons, tu les calculais pas trop avant ?
Bah, à l'université, je les calculais pas trop. Non, j'avoue, je m'en foutais un peu. Ouais. Même aujourd'hui, je suis plus là à regarder vraiment. Je pense que, tu sais, quand j'ai plus ce réflexe de regarder quand il y a des mecs beaux et d'aller leur parler, de dire, oh putain, lui, j'ai un crush sur lui. Enfin.
Attends, t'allais leur parler avant? Tu faisais le premier pas?
Non, mais. Ouais, voilà. je regardais dans les yeux et tout, machin. Non, j'étais quand même très timide, mais ouais, aujourd'hui, et donc, du coup, j'ai plus ce truc, enfin, aujourd'hui, puisque j'ai pas du tout l'impression de devoir de me mettre dans une position où j'ai envie de plaire physiquement à des garçons, genre quand si je vois j'attrape un regard d'un garçon qui pourrait potentiellement me bien avoir un petit crush et tout, je suis en mode genre je suis confuse, je suis en mode mais pourquoi, mais d'accord, ok. Ok.
Est-ce que le fait aussi maintenant d'être une personne identifiée, est-ce que ça peut fausser ce genre de relation, qu'elle soit d'ailleurs amoureuse ou amicale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé?
Alors c'est marrant parce que je disais à mon manager hier, je suis en mode mais putain Lolo, depuis que je suis un peu une personne publique, personnalité publique un peu, les garçons ils m'arrêtent plus dans la rue pour me demander mon numéro. Genre je ne me fais pas, avant je me faisais arrêter,
ouais.
On me disait ah t'es mignon, qu'est-ce que tu fais ce soir et tout machin, genre là j'ai rien, le néant.
t'es tranquille au moins.
Ouais, je suis tranquille, mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion que genre par rapport à avant, j'ai plus de je me fais plus draguer dans la rue.
Bon, eh ben il faut être connu. Si des gens en ont marre de se faire draguer, ils ont qu'à être connus en fait.
Mais
c'est ça,
clair.
Le message qu'on fait passer. Sortez des albums et devenez connus. Bon, on part maintenant du côté de la scène indie britannique avec Freak Slug, une artiste qui s'impose peu à peu avec son univers à la fois lofi et désarmant de sincérité. Son nouveau titre s'appelle Honest Man et extrait d'un EP à venir le 7 novembre prochain.
Talking over me, I have some photographs I'll never delete.
C'était Honest Man de Freaksologue, une artiste qui vient de Manchester, qui sort un prochain EP le 7 novembre prochain.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Ce soir, nous sommes avec Mickey. Et Mickey, je t'avais demandé, comme à chaque invité, des recommandations. Et tu m'en as envoyé. Et notamment, un ou une artiste, d'ailleurs, je ne sais pas, que je ne connaissais pas, Mitz Conte, est-ce que je prononce bien ?
Mitz Conte.
Je prononce extrêmement mal. C'est un homme, une femme ?
C'est un homme australien.
Eh bien, on écoute un extrait. Ça, c'est le morceau 2000, extrait de l'album Mietze, du coup. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans?
Quand j'écoute sa musique, j'arrive pas à capter ce qu'il écoute. Je sais pas ce qu'il... J'ai l'impression que ce mec a jamais écouté de musique dans sa vie. Il a juste trouvé un ordinateur. Et ça, c'est la musique qui est que la musique d'ordinateur. Et ça, déjà, ça me touche énormément parce que c'est vraiment un gars qui s'amuse comme un jeu vidéo, quoi, à jouer... voilà, avec des sidechains, avec du cut-off, à pitcher sa voix, avec des arpés. Enfin, franchement, c'est. Et j'ai l'impression que s'il y avait la BO, s'il y avait un Lily Chouchou, tu vois, ce film ou pas, qui genre d'aujourd'hui, de 2025, ou bien un peu du futur, je pense que sa BO, ce serait lui. Et il travaille aussi avec un mec australien aussi qui s'appelle One Tablespoon. Ils sont trop forts tous les deux. Et je sais pas, il y a un truc où c'est pas formaté, il fait exactement ce qu'il veut, et je l'ai vu en concert, et c'est assez déstabilisant parce qu'il fait vraiment des sets où il joue une minute, un son de une minute, après pas de transition, silence. Il s'en bat les steaks, et après il refait une minute, et là il kiffe. Et les gens, ils captent pas trop. Ça se voit qu'il n'y a pas de partition, il n'y a pas de début ou de fin dans sa musique, c'est juste une sensation. Et je sais pas, ça me touche beaucoup. Et ça me touche parce que ça, comme des artistes genre Bliss 3, c'est de la musique, moi, qui me ramène à un univers très éther, qui est au-delà de ce qu'on vit. Et voilà, ça me touche beaucoup.
Une série, qui est un manga, si je ne dis pas de bêtises, Gun. Je prononce bien.
Ouais.
Aujourd'hui, je suis perdu avec ces recommandations. Mais très bien, très bien. Je découvre des choses. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans?
Alors, en fait, je viens de commencer à lire. C'est juste que le directeur musical de mon live, Bastien Dorémus, il m'a dit un jour, putain, tu me fais trop penser à Gunnum. Je suis en mode, quoi? Je suis genre, tu connais pas? Je suis en mode, non. Je suis allée dans une librairie, j'ai commencé à lire. C'est des mangas. Et donc, c'est une femme qui est, donc voilà, mi-femme, mi-robot. Et moi, déjà, enfin, je suis hyper touchée par... J'ai toujours été touchée par la rencontre humain-robot. Je suis très émue par les machines. Genre, j'aime bien le fait qu'il y ait des objets qui ont été programmés pour faire quelque chose, pour avoir une mission sur Terre, et qu'on est conditionné en fait dès le début, et qu'on peut pas aller à l'encontre de cette condition. C'est des robots, elle pourra jamais. Enfin, comme Pinocchio, quoi.
Ouais, ouais.
Ça me touche beaucoup. Et donc voilà. Donc je viens tout juste de commencer à lire. Donc c'est un début de découverte pour moi aussi.
Est-ce qu'il y a des films comme ça sur le rapport entre l'homme et la machine qui t'ont touché, que t'as en tête? Souvent on cite 2001 l'Odyssée de l'espace par exemple, évidemment avec HAL, qui est peut-être une des premières, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas c'est rencontre fondatrice entre l'homme et la machine au cinéma. Est-ce qu'il y en a comme ça qui t'ont marqué?
Il y a un film qui me détruit à chaque fois, c'est Intelligence Artificielle.
De Spielberg.
Ouais. Produit par Kubrick aussi.
Exactement.
Tu me dis ça.
Si je ne dis pas de bêtises, qui devait être réalisé par Kubrick. Et en fait, Spielberg a pris le projet après la mort de Kubrick avec Jude Law. Et Joel Osment, c'est l'enfant de Sixième Sens, j'ai oublié son orthographe exact de son prénom. J'aime beaucoup ce film qui est un peu mal aimé dans les Spielberg. Je trouve que ce n'est pas le plus cité.
Oui, c'est
et je l'aime beaucoup aussi.
Il est incroyable. Il y a une scène qui me détruit à chaque fois. C'est à la fin quand il demande de revivre un moment. Parce que du coup, c'est à la fin du film, il est dans le futur. Il s'est passé tellement d'années, il s'est endormi. Enfin bref. Et il demande de revivre un moment avec sa maman qui n'est pas sa maman, parce qu'en fait, c'est un robot qui a été programmé pour aimer, qui a été acheté par ses parents pour remplacer un gosse qui était malade. Un vrai enfant qui était malade, mais lui, il est là, il veut aimer sa maman. Et donc, il y a une scène où il demande juste à l'intelligence du futur, genre, s'il vous plaît, genre, rendez-moi ma maman juste un matin. Et même, genre, d'en parler, ça me donne envie de chialer.
Ouais.
Et bref, j'aime trop ce truc de t'es programmé pour une chose et tu peux pas aller au-delà de ça, quoi.
Ouais, ouais. Et alors, tu m'as donné un compte Instagram. Si je ne dis pas de bêtises, ça s'appelle Sushimi.
Mm-hmm.
C'est une fille qui fait de l'urbex.
Ouais.
Et je crois que toi, t'aimes bien l'urbex, en fait.
Ouais, j'aimerais bien en faire plus. J'ai pas le temps d'en faire, mais c'est un truc que j'adore.
Donc tu peux regarder, scroller comme ça et regarder des vidéos ou des photos d'urbex.
Bah oui, après, elle le fait vraiment particulièrement bien. Elle a une capacité. En fait, j'ai l'impression qu'elle sort d'un bouquin, cette meuf, ou d'une bande dessinée, je sais pas. Et elle a une. Je crois qu'elle a des troubles de l'attention, donc elle part hyper vite et elle va dans tous les sens. Et donc c'est un truc aussi qui me rappelle, moi, comment j'écris aussi.
Ouais.
Je trouve ça assez touchant. Et en plus, elle fait de la musique. Et elle a un truc où elle va dans des, du coup dans des.
Parce que l'urbex, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aller dans des endroits justement un peu inhabités ou désaffectés,
ouais.
Abandonnés plutôt, ouais. et les visiter en fait. C'est ça.
Voilà, les visiter, ça peut être très dangereux. C'est pour ça qu'il faut faire ça à plusieurs. Et elle le fait toute seule. Et c'est un peu, c'est hyper dangereux en fait ce qu'elle fait. Elle se met genre vraiment tout en haut de tours électriques. Elle se filme comme ça. Et il y a un truc bizarre. C'est assez paradoxal parce qu'elle est en train de faire un truc suicidaire. Mais en train de vivre sa meilleure vie.
Ouais.
De faire des trucs que, genre, le commun des mortels ne vivrait jamais.
Bien sûr.
Et je trouve ça trop étrange, ce truc de vouloir être conscient de la beauté du monde en faisant ces trucs-là, mais en mettant sa propre vie en danger pour pouvoir toucher à cette beauté-là. Moi, ça te
touche, ouais.
Ouais. Et ces décors aussi, c'est le décor qu'elle choisit, c'est des trucs que moi qui me parlerais, que je mettrais, enfin, typiquement dans mes clips aussi, donc j'aime bien.
Mickey, c'est l'heure de la question qui tue.
Oh.
Mickey, est-ce que tu préfères enchaîner les tubes et faire des albums pas forcément célébrés par la critique, mais enchaîner les tubes ou faire des albums qui vont devenir complètement cultes, mais qui vont jamais vraiment trop marcher ?
C'est une bonne question. Est-ce que j'aime les tubes que j'enchaîne ou pas ? Ou est-ce que c'est des tubes qui sont loin de moi ?
C'est une autre bonne question. Tu m'embêtes un peu là. Non, ils sont loin de toi. Ouais. Il y a une forme de compromission artistique.
Ah oui. Ok. Bah alors, la deuxième option.
Ok.
Je mangerai des pâtes au riz.
Des pâtes au riz. C'est quoi ? C'était le rappeur Fianso qui disait on a mangé du pain dans du pain, nous. Voilà, c'était pour parler de la période d'avant quand vraiment c'était compliqué. Ouais.
Ce qui est bon, c'est du pain aux chips. Je sais pas si t'as déjà goûté ça. C'est un truc que les Anglais ils font, des sandwichs de chips.
J'ai jamais. Moi, pour moi, le pain, c'est tout seul.
Ah oui.
Je suis un peu un puriste du pain.
Je comprends.
Et idéalement avec 24 heures de vie pour qu'ils soient un peu durs.
Ah oui.
Ouais.
Ah c'est bon ça.
Ah toi aussi. Je pensais être seul là-dedans.
Ah non, et non.
Bien
sûr. Le truc que tu donnes aux chevaux normalement. J'adore.
Aux oiseaux. Exactement. c'est pour moi c'est mon prime ça.
Ouais.
Tu vois, j'ai pas besoin de beaucoup de choses, grand chose de plus. Mais oui, donc le côté, je pose la question aussi parce que j'ai l'impression que le côté culte. Peut-être que je me trompe encore une fois parce que j'ai pas envie de te mettre dans une case. Et je pense que effectivement t'as l'air d'aimer aussi la pop, etc. Mais j'ai l'impression que tu préfères être culte que populaire.
Complètement.
Eh bien écoute, c'est parfait. On va donc se quitter sur cet accord. Mickey, merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir et longue vie à Industrie Plante, ton premier album.
Merci, Mise.
Merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain, bien sûr. Une émission préparée par Alexia Lacour et Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Colli. Programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Laurent Baudouin et Gaspard Guy Bourget. Merci aux équipes web et vidéo. Lundi, donc, on se retrouve pour une émission spéciale Taylor Swift. Voilà. Bon week-end à tout le monde.